le 6-9 du week-end sur France Inter.
Patricia Martin, votre invitée à présent, Chloé Morin, la directrice de l'Observatoire de l'Opinion à la Fondation Jean Jaurès.
Oui, c'est une fondation qui met en perspective historique les interrogations du moment, et Dieu sait si elles sont particulièrement nombreuses. Bonjour Chloé Morin.
Bonjour.
La défiance vis-à-vis du président de la République depuis la crise du Covid-19 vous paraît-elle injuste, exagérée, ou bien est-ce que ça a été finalement le détonateur, ce Covid, d'une crise qui préexistait ?
Alors la défiance, elle n'est pas juste ou injuste, en réalité c'est un fait politique. Oui. Elle était déjà très profonde avant la crise et en réalité elle n'a fait que s'accroître. Et lorsqu'on compare la France aux pays voisins, au fond, on se dit quelque part, c'est pas le gouvernement qui a mieux ou moins bien géré. Il n'y a pas que ça. Emmanuel Macron est jugé avec une sévérité qui est bien plus grande ici que Angela Merkel dans son pays ou Boris Johnson dans le sien, c'est parce que au-delà de la crise sanitaire que nous traversons et de la crise économique qui ne fait que commencer, nous traversons depuis plusieurs années une crise qui est véritablement politique. C'est une crise de notre manière de décider, notre manière de débattre ensemble. Et quelque part, cette crise politique, c'est lié au fait que nous ne savons plus ce qu'on fait ensemble et où on va.
Crise de la représentation politique, et est-ce que ça signifie aussi, est-ce que ça sonne l'heure de la fin des partis politiques ? Je fais là allusion à un livre que vous avez coécrit avec Daniel Perron.
Alors oui, il faut revenir à ce que sont les partis politiques au fond. Un parti politique, il est là pour capter les aspirations, les colères des gens et pour les traduire dans des projets collectifs, dans des solutions qui sont ensuite débattues et qui permettent d'élaborer des compromis qui conviennent grosso modo à tout le monde. Les partis, ils ont aussi la fonction d'interpeller, de contrôler le pouvoir. C'est quelque part, ils sont essentiels pour être une sorte de boussole et des garants de la vitalité démocratique et surtout dans les périodes de crise. Et là, ce qu'on a vu pendant le confinement, c'est que les partis ont été eux-mêmes confinés.
Inaudibles.
On les a vus assez inaudibles, assez peu présents dans les médias en dehors des extrêmes, il faut le dire. Et ils avaient surtout très peu de place au Parlement. Parce qu'on sait très bien que la majorité de La République En Marche, même si elle s'amenuise, est écrasante et lui permet de fixer quelque part l'agenda politique. Et donc, effectivement, sans parti, le gouvernement manque d'une forme de boussole, de corde de rappel qui lui permet de ne pas se retrouver seul, sans relais face au peuple.
Mais on sait aussi que c'est depuis l'élection d'Emmanuel Macron que le clivage gauche-droite a éclaté.
Oui, alors Emmanuel Macron a fait éclater le clivage au nom du pragmatisme. C'était l'idée qu'on allait prendre le meilleur de la gauche et de la droite et qu'on allait trouver l'alchimie idéale, une sorte de vérité révélée qui serait le meilleur choix possible pour le pays. En réalité, la démocratie, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on a besoin de conflits, de conflictualité, pour élaborer des compromis. Finalement, l'idée que tout le monde aurait les mêmes intérêts et qu'il faudrait faire la moyenne des intérêts des uns et des autres pour trouver le bon chemin, c'est une idée qui est dangereuse puisque c'est la fin de la politique. Et aujourd'hui, avec les municipales par exemple, on voit une sorte de retour du clivage gauche-droite.
Mais on voit aussi la peur de l'abstention et la réalité de l'abstention. C'est-à-dire que finalement, les citoyens ont peut-être l'impression qu'on leur demande de voter, et puis, pardonnez-moi, je vais être vulgaire, mais de fermer leur gueule après, au fond.
Oui, ça fait plusieurs années qu'on constate la difficulté à faire vivre le débat en dehors des périodes électorales. Mais on ne fait pas grand-chose pour régler le problème, c'est-à-dire qu'en gros, on met un peu de démocratie participative ici et là, des conventions citoyennes, mais ça reste très marginal et très cosmétique. En réalité, il faudrait faire un vrai aggiornamento démocratique de ce point de vue-là. Et c'est vrai qu'en dehors des élections, où sont les lieux de débat ? En réalité, le Parlement est dévitalisé pour la raison que je citais tout à l'heure, qui est qu'il y a une majorité écrasante. Les débats, du coup, ils se déportent sur les réseaux sociaux et à la télévision, qui donnent l'illusion du débat, mais en fait, c'est souvent un pugilat et des querelles de personnes. Donc, ça n'aboutit jamais à des solutions et ça ne fait qu'accroître la frustration.
Chloé Morin, donc le président de la République est en difficulté. Comment interprétez-vous certaines de ses approches? J'entends par là le coup de téléphone qu'il a passé à Éric Zemmour, et pourtant on peut pas dire que ce soit des frères jumeaux. Il a autorisé Philippe de Villiers à ouvrir les portes du Puy du Fou le 11 juin prochain, alors que Édouard Philippe était lui beaucoup plus hésitant. Il y a plusieurs exemples comme ça qu'on peut donner vers des gens qui sont, on va dire, anti-système.
Oui, alors c'est toutes ces personnalités ont la particularité d'être d'incarner quasiment l'exact inverse de ce qu'est Macron. Si on prend Zemmour, c'est une France, disons, enracinée, réactionnaire, etc., nostalgique. C'est tout l'inverse de ce que Emmanuel Macron tente d'incarner. Si on prend Jean-Marie Bigard, auquel il a téléphoné récemment, c'est une France qui revendique une forme de beaufitude et de vulgarité, alors qu'Emmanuel Macron incarne une forme d'élitisme, d'intellectualisme élitiste, un peu déconnecté. Finalement, quand il va chercher ces personnalités-là, c'est à la fois pour lui un moyen de se régénérer en termes de popularité. Il en fait des ambassadeurs auprès de segments de population auxquels il ne parle plus. Et c'est aussi une manière, auprès de son propre électorat, d'agiter en fait des épouvantails. Il fait sortir des diables de leur boîte et, par contraste, il apparaît à ses électeurs qui sont déçus et qui peuvent aller voter en traînant des pieds. Il apparaît rassurant et raisonnable par comparaison.
C'est un coup politique un peu dangereux.
Ah oui, ça lui ressemble dans le sens où c'est disruptif. Et je pense qu'il essaye en ce moment de renouer avec ce caractère disruptif qui faisait sa marque de fabrique depuis son apparition sur la scène politique. Et c'est vrai que depuis quelque temps, il s'était coulé dans le système. Il avait perdu sa singularité. Et on sent quelque part qu'à travers ça, il essaye aussi de secouer le système, de brouiller les cartes aussi sans doute pour mieux préparer la suite. Et puis de renouer avec certaines des caractéristiques qui ont fait qu'il y a eu un engouement pour Emmanuel Macron en 2016-2017.
Chloé Morin, d'un mot, d'un seul, je rappelle que vous êtes directrice de l'Observatoire de l'Opinion à la Fondation Jean Jaurès. Le monde va être pareil mais en pire, ou bien le monde sera plus fort et peut-être parce que plus conscient aussi de ses fragilités? Vraiment d'un mot.
Ça nous ramène à la crise démocratique. Ça dépendra de notre capacité à poser les sujets, en débattre et décider collectivement.
Merci beaucoup Chloé Morin.